c'est Dominique de Rouen. J'écoute votre émission sur la pollution numérique et je souhaite réagir. Depuis environ une décennie, on nous rabâche qu'il ne faut plus utiliser de papier et passer à la dématérialisation pour tous nos documents. Maintenant, vous nous alertez sur les méfaits de la dématérialisation. Mais pour qui nous prend-on? Toutes ces décisions sont prises à très court terme, sans aucune analyse des conséquences. Le plus dangereux est qu'à chaque fois, on fait culpabiliser les individus. Alors maintenant, ça suffit. Cessez de nous prendre pour des ons et laissez-nous vivre un peu. Au revoir.
Je m'appelle Corinne, j'habite Westalten dans le Haut-Rhin. Je suis certainement beaucoup moins connectée que vos interlocuteurs et j'ai été frappée par le nombre d'interdictions qu'ils voudraient poser alors que eux-mêmes sont très utilisateurs, mais eux-mêmes trouvent un sens à leur utilisation. Et après, quand on dit « la Chine interdit ça et c'est bien », la Chine c'est une dictature quoi. Voilà, je vous remercie, au revoir.
Bonjour, c'est Corinne Arène. Je suis contente que vous ayez donné un numéro de téléphone classique à la fin de l'émission pour donner son avis. Parce que je me balade avec mon smartphone en écoutant la radio et je n'ai pas l'application France Inter et je n'ai pas besoin d'aller voir France Inter sur Instagram et Facebook et toutes ces choses-là. Donc effectivement, pour une émission qui traite de ces sujets-là, bon ben je pense que peut faire mieux quoi. Déjà dans votre émission. Au revoir.
Madame Rousseau, Monsieur Jadot, vous qui êtes candidat à l'élection présidentielle, nous ne vous avons pas beaucoup entendu parler de forêts. Savez-vous ou ne savez-vous pas que les forêts sont les écosystèmes terrestres qui fixent le plus de carbone? Pas un mot sur leur gestion. Si vous êtes élu présidente ou président, autoriserez-vous les coupes rases? Allez-vous abolir la chasse à courre? C'était Vincent de l'association RETS Nature et Forêt.
Oui, bonjour, la Terre au Carré, Saint-Henri de l'Oise. Oui, voilà, je ris un peu jaune parce qu'effectivement, moi, je suis agriculteur conventionnel. J'entends régulièrement sur votre antenne et partout que je n'ai pas que des pratiques bénéfiques pour la planète. Et voilà, je ris jaune parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous découvrez France Inter et le monde des médias, que vous-même, vous n'êtes pas plus exempt de toutes conséquences environnementales. Donc, bienvenue dans le monde pourri de la pollution.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Il s'agit d'une période très particulière de l'histoire de la Terre et on l'appelle l'Anthropocène, période marquée par les transformations qu'ont engendré nos activités en provoquant justement des modifications environnementales sur la biodiversité, la pollution ou le climat. Cette histoire est celle de l'empreinte anthropique. Mais quand démarre cet Anthropocène? À partir de quand les activités humaines ont-elles commencé justement à transformer durablement l'évolution naturelle de la Terre? C'est toute la question et les scientifiques entre eux ont loin d'avoir tranché. Cette question, on l'aborde avec nos invités cet après-midi, le géographe Michel Lussault et l'anthropologue Christine Chivallon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Michel Lussault, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'École urbaine de Lyon et vous co-dirigez avec Valérie Didier les ouvrages de la collection À partir de l'Anthropocène. Et là, vous publiez donc le nouveau numéro intitulé Néolithique Anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années. Il y a donc de quoi dire. C'est un ouvrage collectif édité par les éditions 205. Christine Chivallon, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au sein du laboratoire caribéen de sciences sociales en Martinique. Et vous avez également participé à ce numéro sur l'Anthropocène. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de l'empreinte humaine au fil du temps et sur la planète, avec les messages et les questions des auditeurs, franceinter.fr, les réseaux sociaux et l'appli France Inter, où vous pouvez bien sûr nous laisser vos notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, avec quelque chose de très humain, tiens. Le Grind, ce sont les massacres de cétacés aux îles Féroé.
Valérie Ayestaraï est aux commandes de l'émission, préparée par Chantal Le Montagnier, Leonardo Cannes pour les réseaux sociaux et Clément Berman à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Pour le prix Nobel, Paul Crutzen, qui a proposé le mot au début des années 2000, l'Anthropocène se définit par le fait que, je cite, « l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et si intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre ». On est passé de l'anthropisation des milieux à l'altération de la planète entière dans l'ensemble de ses fonctionnements.
Voilà, le chercheur Christophe Bonneuil qui nous en donne une définition. Il y en aura certainement d'autres au cours de cette Terre au Carré avec vous, Michel Lussault et Christine Chivallon, pour parler donc de l'empreinte des activités humaines sur la planète. Quand l'Anthropocène a-t-il commencé? Au fond, c'est pas tellement la question qui vous intéresse le plus, Michel Lussault, apparemment. Hein.
Non, pas vraiment. On peut dater l'apparition du concept.
Ouais.
Au début des années 2000, effectivement, Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie, avec quelques autres scientifiques, propose de définir l'Anthropocène comme une nouvelle période géologique qui succéderait à l'Holocène, cette période qui s'est ouverte à la fin de la dernière glaciation. Une nouvelle période géologique qu'on appellerait Anthropocène, en entendant évidemment anthropoi,
l'homme,
l'être humain, ouais, l'espèce humaine. Une nouvelle période géologique qui serait caractérisée justement par la capacité de l'homme, en raison de ses activités, de forcer les systèmes biophysiques planétaires, et ce, à toutes les échelles en même temps. Et cette proposition est immédiatement débattue. Paul Crutzen est un scientifique de grand renom. Il publie des articles dans des très grandes revues scientifiques, Nature, Science. Tout le monde commence à réfléchir à ça. Et petit à petit, le concept, sinon s'impose, en tout cas, le concept devient discuté.
Ouais.
Et cela de plus en plus. D'ailleurs, un historien des sciences, qui a beaucoup travaillé sur cette question, a estimé que depuis la théorie de l'évolution de Darwin, jamais un concept n'avait aussi vite provoqué de convergence de travaux de si nombreuses disciplines dans l'histoire de la, ouais, science occidentale. Pour donner une illustration de l'intérêt que ce mot provoque dans la communauté scientifique mondiale, d'ailleurs peut-être plus à l'étranger qu'en France, où le mot apparaît avec un peu de retard.
Ouais. Convergence, mais controverse aussi quand
bien
même,
sûr,
parce que vous êtes loin d'être d'accord entre vous, les scientifiques.
Et c'est en ce sens que c'est un véritable concept scientifique tout à fait fascinant, parce, ouais, que c'est un concept scientifique qui permet justement de nourrir la controverse, finalement, autour d'une question simple qui a bien été, ouais, résumée par Christophe Bonneuil, à savoir, nous savons que l'anthropisation est un processus long et continu, et pas si continu que ça, qui provoque des effets considérables sur les systèmes biophysiques planétaires. Mais à partir de quel moment peut-on dire, et c'est, ouais, ça la vraie question, que ces activités humaines ont non seulement un impact local, ça fait très longtemps qu'on sait que les êtres humains ont possiblement un impact local sur les écosystèmes, par exemple. On sait par exemple que le maquis est une production anthropique. Mais à partir de quel moment les activités humaines ont-elles un impact global sur le système planétaire dans son entièreté? Et c'est là où se situe le débat dont nous essayons de rendre compte dans ce livre.
Et Christine Chivallon, pourquoi ça discute entre les disciplines scientifiques? Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord, loin de là? On l'a vu d'ailleurs à un congrès qui s'est tenu en Afrique du Sud il y a quelques années, où ça a été vraiment, mais même très tendu par moments, hein, pour essayer de dire, est-ce que vraiment on peut même parler d'anthropocène aujourd'hui?
Alors oui, ce qui est frappant avec cette notion, c'est que c'est une notion, en principe, on est très compartimenté dans nos disciplines et les sciences humaines s'en sont emparées,
ouais,
avec une rapidité, et le concept est beaucoup plus discuté, je crois, dans les sciences sociales que dans tout ce qui est de l'ordre de la physique, de la géologie, etc. Alors pourquoi? C'est parce qu'en même temps, à la même période, émerge un nouveau paradigme en sciences sociales qui est celui de l'humain et du non-humain. Et l'Anthropocène vient un peu valider cette nouvelle perspective sur repenser l'humain et le non-humain, la fin du grand partage nature-culture, hein, mmh, qui était de toute la tradition lévi-straussienne.
Ouais.
Et donc, on va se retrouver avec les sciences sociales qui s'emparent de ce concept et le critiquent fortement. Et on en viendra peut-être après à la critique, puisque c'est ce qui ressort de toutes ces discussions,
ouais,
de l'Anthropocène en sciences humaines.
Alors vous parlez de Lévi-Strauss, mais on pourrait parler de Philippe Descola aussi, évidemment,
hein,
quand
évidemment
on pense à nature et culture. On va l'écouter justement, il sera notre invité lundi, mais il nous dit pourquoi finalement cette notion d'Anthropocène est intéressante pour un scientifique comme lui.
Les anthropologues qui, comme moi, s'intéressent aux transformations des environnements sont persuadés que ça fait très longtemps que l'environnement est en quelque sorte profondément anthropisé, et ça depuis les débuts de l'Holocène, c'est-à-dire en fait depuis plus de 10 000 ans. On sait maintenant que l'Amazonie n'est pas le plus grand morceau de forêt vierge ou de nature vierge du monde, mais que c'était un environnement qui a été profondément transformé par des millénaires d'occupation par les humains. Alors évidemment, c'est pas visible. On vous parachute au milieu de l'Amazonie, vous avez vraiment l'impression d'être dans un monde sauvage. Eh bien, en réalité, si vous avez appris à détecter les associations végétales, vous vous apercevrez que dans beaucoup d'endroits, ces associations végétales, par exemple, ne sont pas naturelles.
Voilà, à l'occasion d'une conférence au Collège de France, Philippe Descola qui sera notre invité, Camille, donc lundi effectivement.
Prochain, le 27 septembre.
Christine Chivallon, alors c'est intéressant cet exemple, parce que c'est vrai que quand on regarde l'Amazonie de haut, on se dit, voilà, on a vraiment l'exemple d'une nature pure, sauvage, qui n'a jamais été touchée par l'homme, sauf évidemment déforestation, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais sur les plantes, sur la notion de plante, ça aussi, c'est une notion passionnante. Et vous qui étudiez la Martinique et les Caraïbes, vous avez aussi un terrain de recherche tout à fait particulier pour parler de ça.
Oui, bien sûr. Mais là, on voit bien que le débat est un peu... il est complexe parce que en même temps, on ne veut plus parler de nature et de culture, et en même temps, on en parle. C'est ça. On parle d'associations, de couverts végétales qui portent l'empreinte humaine, mais en même temps, on développe, et particulièrement chez Descola, la pensée selon laquelle des cultures, ce qu'il appelle des modes ontologiques, n'ont absolument pas ce rapport à l'environnement de l'ordre d'une dualité de l'action humaine sur la nature. Pour la Martinique, c'est autre chose. C'est à l'intérieur de cet ensemble qui serait lié à l'anthropocène et qui serait le mode des sociétés occidentales, le plantationocène étant, alors vous l'avez très bien dit au début, on n'a pas, on dirait qu'on recherche une origine. D'où vient l'anthropocène ? En fait, je crois que ce que l'on recherche, enfin, pour ma part, c'est une matrice, quelque chose de matriciel et qui se reconduit. Et la matrice, moi je suis absolument convaincue de tirer les fils du néolithique, de tirer les fils du Moyen-Âge, etc. Mais on arrive à un événement qui, d'après moi, forme cette matrice, c'est la découverte du Nouveau Monde. Avec la découverte du Nouveau Monde, est embrayée une nouvelle logique, la logique de la monoculture intensive, extensive, avec l'accumulation de richesses qui viennent de les bénéfices, les profits, l'accumulation, le négoce qui va venir de cette exploitation maximale des ressources naturelles.
Ouais, alors Michel Lussault, par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, quelle que soit la discipline, chacun a son interprétation de l'anthropocène. Donc vous, évidemment, votre terrain, ce sont les Caraïbes, donc vous allez nous proposer effectivement cette illustration. Michel Lussault, vous, c'est l'urbanisme, donc vous nous dites, ben voilà, ça commence après les années 50, au moment où explosent les grandes villes et l'urbanisation. Jean-Paul Demoule, qui est archéologue, il dit, ben non, c'est au néolithique que ça se passe, il y a 10 000 ans, la sédentarisation et l'agriculture. Donc chaque scientifique va avoir son interprétation. Donc on prend quoi, finalement, au bout du compte?
Oui. Et puis on irait voir des géologues, ils vous diraient encore autre chose, des physiciens encore autre chose, des chimistes du climat encore autre chose, des pédologues encore autre chose. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que l'anthropocène, c'est pour ça que je trouve que la comparaison de l'historien John McNeill avec la théorie de l'évolution est intéressante. Parce que finalement, la théorie de l'évolution, qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit une nouvelle manière, en quelque sorte, de penser un certain nombre de phénomènes qu'on croyait connaître. Ça a été un formidable moment de créativité scientifique. La créativité scientifique, ça existe, vous en parlez tous les jours dans cette émission. Eh bien, l'anthropocène, c'est une incitation à la créativité scientifique. En fait, l'anthropocène, c'est une incitation à se dire, voilà, il y a une histoire de l'anthropisation de la planète qu'on connaît de mieux en mieux. Cette histoire est plus longue que l'on ne croit, mais elle est finalement assez courte aussi, notamment si on part du néolithique, ça fait à peine 12 000 ans. Cette histoire, peut-on en quelque sorte la raconter autrement à partir de cette interrogation sur l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques et à partir de l'idée que cet impact n'est pas simplement quelque chose de marginal, mais que cet impact a la capacité de reconfigurer le système biophysique planétaire et donc d'imposer de nouvelles conditions d'existence aux humains qui eux-mêmes sont à l'origine de cette recomposition. Vous voyez bien le paradoxe.
Mais dans ce cas-là, c'est ultra récent, alors, si on prend ce que vous venez de dire.
Alors, pour certains, c'est ultra récent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, ça date plutôt de ce qu'on appelle la grande accélération post-1950. Mais pour certains préhistoriens, dès la fin du paléolithique, en fait, dès le début du néolithique, l'activité humaine est susceptible d'avoir des impacts considérables sur les systèmes biophysiques planétaires.
Eh bien, on y revient dans un instant, puisque c'est le sujet de l'émission avec les messages des auditeurs.
Montre-moi ton point sensible. Je te dirai qui tu es.
Point sensible, c'était Malik Djoudi.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà un objet qui, pour moi, représente vraiment l'Anthropocène, c'est une hache polie. C'est une création du néolithique au moment où on invente l'agriculture et l'élevage. Parce que pour développer l'agriculture et l'élevage, il faut abattre la forêt. Donc c'est la première atteinte considérable sur la nature, puisqu'on va déboiser pour avoir des champs pour cultiver, pour avoir des prairies pour que les animaux puissent se nourrir. Et puis abattre du bois pour construire des maisons, puisque maintenant on n'est plus nomade mais on est sédentaire, ça va être un processus irréversible. Donc à partir de cela, ben, l'emprise de l'homme va sans arrêt grandir sur la forêt, la nature sauvage disparaît progressivement.
Voilà l'archéologue Jean-Paul de Moule pour parler de l'Anthropocène. D'ailleurs, l'objet dont il parle, Michel Dussault, fait partie de cette exposition à voir en ce moment au Musée des Confluences de Lyon, La Terre en héritage, c'est jusqu'au 30 janvier, et qui illustre au fait le propos d'aujourd'hui.
Oui, c'est une exposition que nous avons conçue avec l'INRAP, avec le Musée des Confluences et l'École urbaine de Lyon. Nous essayons de mettre en tension le néolithique comme premier moment où les êtres humains en société ont dû inventer de nouvelles relations à l'environnement biophysique.
Donc il y a 10 000 ans à peu près, voilà, grossièrement.
Et puis la période post-1950, qui est pour nous la période où, en raison de l'urbanisation généralisée de la Terre et de la mise en place de la mondialisation économique, finalement, les choses changent radicalement parce qu'il y a une sorte d'accélération, d'intensification et de changement d'échelle des phénomènes.
Vous dites post-1950, vous prenez pas la révolution industrielle.
La révolution industrielle est une étape très importante, mais ce qui est frappant, c'est que tous les indices convergent pour laisser les chercheurs penser aujourd'hui qu'après 1950, quand on regarde véritablement les activités humaines, en raison de toute une série de choses qui seraient trop longues de définir aujourd'hui, c'est précisé dans un texte que je donne dans ce livre Néolithique Anthropocène, comme je le dis, on change complètement d'échelle des phénomènes. C'est-à-dire on arrive à une intensité, une ampleur des phénomènes d'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques qui n'avaient absolument pas de comparaison avec ce qui se passait auparavant.
Mais sauf évidemment, que quand même, les climatologues nous montrent que c'est à l'ère industrielle, donc au 19e, que commencent à être émis vraiment les grandes parts d'émissions de gaz à effet de serre, et que ça a une influence considérable la suite.
La théorie dite de la grande accélération a été proposée par des spécialistes des sciences du système Terre, donc des climatologues, des chimistes et des physiciens, et ils montrent justement que toutes les courbes sur les tendances biophysiques et sur les tendances sociales, à partir de 1950, passent d'une pente arithmétique à une pente géométrique. Donc il y a une exponentielle dans les courbes qui montre qu'on change d'état. Et par rapport à cette question, je crois d'ailleurs qu'il serait erroné d'essayer de trouver une origine et une histoire continue. Nous n'essayons pas de dire que le néolithique, c'est le point origine et qu'à partir de là, tout se serait déroulé continuellement. Nous essayons plutôt de dire que le néolithique, pour reprendre le mot de Christine, est une matrice qui permet de penser ce moment où des sociétés sont obligées ou inventent de nouvelles conditions à leur environnement. Et ensuite, il y a eu une histoire qui est une histoire épaisse, feuilletée, avec des lieux géographiques particuliers. Et dans ce cadre-là, le monde caraïbe, le monde où s'est installée l'agriculture esclavagiste de plantation, était évidemment un lieu qui a été tout à fait important. C'est pour ça que nous consacrons un texte que nous avons demandé à Christine sur la notion de plantationocène.
Ouais, alors vous parlez des empreintes prédatrices. Il y a un terme qui est très fort justement pour dire que il y a aussi une marque dans les corps et dans les terres aussi, avec les plantations dont vous parliez tout à l'heure aux Caraïbes.
Caraïbes, Amérique noire, ce qu'on appelait les Amériques noires depuis Roger Bastide, c'est-à-dire toutes les sociétés à fondement esclavagiste, incluant les États-Unis, première puissance mondiale aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la culture de plantation des États du Sud a permis le développement des États du Nord, l'industrialisation, la révolution industrielle, c'est un continu là, alors un continuum. Alors c'est vrai que c'est pas une histoire de dater une origine. C'est aussi une histoire, et on l'a pas assez dit jusqu'à présent, de critique du concept d'anthropocène.
Ouais.
Parce que le concept d'anthropocène, qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'empreinte humaine, indifférenciée. Et c'est pour ça que par rapport au néolithique, je pense que de revenir sur cette diversité des manières de concevoir le rapport à l'environnement est très très importante. Et c'est avec l'anthropocène, c'est un mode parmi d'autres, un imaginaire social plutôt dystopique, qui est celui de l'ordre de la prédation, de l'extractivisme, de l'exploitation sans limite de l'environnement et de l'humain. Et le plantationocène, comme le concept de capitalocène, qui est de Andreas Malm, qu'on a entendu sur vos antennes il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est une critique, attention, où est le pouvoir, où est le rapport de pouvoir de l'humain? Il disparaît avec la notion d'anthropocène. L'anthropocène lisse un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, lisse une empreinte humaine qui serait attribuable à chacun, alors que non, parmi les acteurs de cette dynamique extraordinaire, intensifiée à une rapidité extraordinaire et que montre bien l'ouvrage, oui. Cette empreinte-là, ce processus-là, il relève de dynamique de pouvoir. Oui. Et dans les sociétés, c'est pour ça que quand je parle de matrice, c'est dans les plantations, se met en place une extraction des corps, le corps noir construit en tant qu'animalisé, déshumanisé, et une perte totale de la biodiversité par la monoculture. Et moi, je préfère travailler sur le binôme humain-inhumain que humain-non-humain, parce que ce binôme, je pense que si on arrive à l'affronter, l'humain et l'inhumain, on parviendra peut-être à concevoir de manière plus efficace le rapport à la biodiversité.
Mais Camille, il y a des questions.
Une question de Patrice sur notre mail de la Terre au Carré. Les personnes qui nient la notion d'anthropocène ne sont-elles pas celles qui sont aveuglément favorables à une économie libérale débridée, toujours prompte égoïstement à nier les ravages de l'activité humaine sur l'environnement, Michel Lussault.
Les anthroposceptiques alors.
Oui, il y a des anthroposceptiques, on en connaît, c'est souvent aussi
qui sont
des
climato-sceptiques.
Hein, c'est-à-dire que je pense que l'anthropocène est aujourd'hui difficilement niable, même s'il doit être critiqué et enrichi. C'est d'ailleurs l'apport spécifique des sciences sociales dans le concept d'anthropocène, c'est justement de réintroduire la question de la stratification des sociétés et des enjeux de pouvoir. L'anthropocène est très travaillé par les sciences, mais les sciences sociales y apportent quelque chose d'autre, qui est la perspective historique et l'enrichissement par la critique des systèmes qui sont à l'origine, en quelque sorte, de ces forçages intensifs. Évidemment, l'esclavage en est un exemple, mais quand on parle de la grande accélération post-1950, il ne faut pas croire que cette grande accélération, elle vient toute seule. Elle est elle-même le résultat de la mise en place d'un type de capitalisme, d'un type de rapport à la production, et c'est aussi à partir de 1950 que cet extractivisme, c'est-à-dire cette volonté d'extraire de la ressource partout, se met en place de façon si systématique, et là aussi il y a une histoire qui peut être trouvée dans l'histoire des plantations coloniales. Donc dire...
Et vous parlez d'urbanocène, parce que chacun y va de son terme aussi.
Pour jouer sur les mots, mais ouais. C'est aussi une incitation à la créativité scientifique. Moi je milite depuis très longtemps pour considérer que la science progresse quand on est capable d'inventer des concepts critiquables, qui sont justement offerts à la discussion des scientifiques. Parce que c'est, il me semble que c'est comme ça qu'on arrive à approcher au mieux les réalités.
Donc, sauf qu'est-ce que ça ajoute pas de la complexité pour le grand public, oui. Par exemple, qui aimerait bien aussi pouvoir se repérer dans toute cette notion.
Mais je crois aussi qu'il faut assumer quelque chose qui est difficile à assumer pour les scientifiques, mais qu'il faut l'assumer, c'est qu'en réalité, nous avons encore beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire nous avons encore beaucoup d'interrogations, non pas sur la réalité du phénomène, donc nous ne sommes pas anthropocéno-sceptiques, nous avons encore beaucoup d'incertitudes parce qu'il nous reste beaucoup de choses à comprendre, à connaître dans le détail. Aussi parce que pendant très longtemps, on n'a pas fait attention à certains phénomènes qu'on étudie aujourd'hui de façon beaucoup plus intense. Par exemple, une partie des sciences et des sciences sociales a complètement sous-estimé l'importance de la mise en place des sociétés esclavagistes. Une partie des sciences et des sciences sociales, on en avait déjà discuté ici, a complètement sous-estimé l'importance de l'urbanisation généralisée de la planète et de ses effets. Donc vous voyez, il y a encore d'énormes efforts de connaissance et le mot est là pour soutenir ces efforts de connaissance.
Christine Chivalon, juste tout à l'heure, vous avez parlé d'inhumain et pas de non-humain. Est-ce que vous pouvez juste en quelques phrases m'expliquer la différence que vous faites entre ces deux termes qui
voire même en quelques secondes.
Oui, quelques secondes.
Quand le temps avance.
C'est que l'on néglige effectivement, on fait que plus que négliger. Il y a pratiquement un déni d'histoire. On dit que la modernité occidentale, bornée par deux moments indépassables, le moment de la traite et de l'esclavage, le moment de la Shoah, de l'économie morale de la modernité occidentale. On a du mal à s'emparer du premier de ces traumas humains qui est la traite et l'esclavage. Et au sein de la traite et de l'esclavage, c'est la transformation de l'humain en non-humain, en animal. L'animalisation est un véritable processus de déni d'humanité.
Donc l'inhumanité.
Et l'inhumanité, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci que nous n'arrivons pas à affronter.
Allez, on se retrouve dans un instant, on a encore du temps pour discuter avec, bien sûr, les questions des auditeurs autour de ce livre qui paraît, cet ouvrage néolithique Anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années. Donc ça nous fait de quoi discuter.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, c'est l'heure de Camille Passe au Vert avec vous, Camille Cronier.
Et nous sommes sur une plage, écoutez les vagues. Il y a des enfants aussi, des femmes, des hommes, bref, beaucoup de monde et beaucoup d'agitation. Écoutez bien au loin. Là, ce sont des bruits de moteurs de bateaux, des dizaines de bateaux en train d'encercler et de rabattre vers notre plage des dauphins encore plus nombreux. Nous sommes aux îles Féroé, cet archipel paumé dans la mer du Nord, pile pour vos révisions de géographie entre l'Islande, la Norvège et le nord de l'Écosse, mais c'est une province autonome d'un autre pays, le Danemark. Et aux Féroé, les dauphins, on les massacre. La mer devant nous est toute rouge et les familles autour se faufilent entre des cadavres de cétacés ou d'autres qui agonisent. Alors là, ce qu'on entend, c'est un dauphin qui tape avec sa queue pendant que des hommes viennent lui trancher la tête avec d'énormes couteaux. Ça s'appelle le grindadrap. Voilà, et c'est pratiqué depuis des siècles en toute légalité par les pharyngiens. Les images font régulièrement le tour des médias, mais le dimanche 12 septembre dernier, ce grind, on dit comme ça aussi, ce grind a encore plus marqué parce que 1428 cétacés ont été tués d'un coup. C'est un nombre énorme, avec des images relayées par l'association Sea Shepherd que préside Lamia Essemlali en France.
Ils ont malheureusement croisé ce qu'on appelle un superpod. Donc ce sont différents groupes de dauphins qui se réunissent pour un temps court, soit pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Et donc c'est l'effet couplé de cette espèce qui fait polémique et le nombre absolument énorme. D'ailleurs, une grosse partie des cadavres ont été incinérés, hein, parce qu'ils ne peuvent pas écouler autant de dauphins.
En fait, il y a deux problèmes. D'abord, le nombre, donc plus de 1400 cétacés d'un seul coup, alors que normalement, c'est 600 au total dans l'année. Et puis l'espèce, donc là, il s'agit de dauphins à flanc blanc, alors que les participants s'attaquent normalement au globicéphale dont ils mangent la viande. C'est d'ailleurs l'un des arguments pour justifier la pratique. Mais ça ne tient plus aujourd'hui pour Lamia Essemlali.
C'est une pratique qui existe depuis des siècles. Hein, et si ça pouvait se justifier à une certaine époque, parce qu'effectivement ça apportait une nourriture essentielle aux habitants de l'archipel, ça fait des décennies que ça n'est absolument plus nécessaire. Hein. Aujourd'hui, si vous allez dans les supermarchés aux îles Féroé, vous vous croyez dans un supermarché en plein cœur de Paris. Hein. C'est ce qui montre aussi l'hypocrisie de leur argument, qui est de dire qu'ils se nourrissent en chassant des animaux sauvages qui ont vécu libres. Non, non, mais ça les empêche absolument pas de s'approvisionner en élevage industriel issu de l'Europe.
Les pharyngiens défendent aussi le côté culturel du grindadrap à transmettre aux enfants. C'est important de leur montrer notre culture et qu'ils l'apprennent jeune, disait une maman à Hugo Clément qui avait fait un reportage il y a 2 ans pendant qu'un autre participant relativisait, si on peut dire. Je ne vois pas de différence entre tuer un poulet et tuer un dauphin. Alors, il y a 10 jours, l'ampleur et la nature du grind ont quand même secoué les Féroé. La moitié des 50 000 habitants se sont dit contre le massacre des dauphins à flanc blanc. Même l'association des baleiniers de l'archipel a parlé d'une grave erreur. Et son ancien président s'est dit choqué. Voilà, alors c'est dans cette interview à la télé nationale, mais comme je ne parle pas un mot de cette langue, le féroïen, je ne sais pas du tout à quel moment c'est.
Personne ne parle dans le studio.
J'ai essayé de faire avec des logiciels de traduction, j'ai pas réussi. Donc en tout cas, il dit aussi que ça avait gâché tout le travail fait jusque-là pour préserver le grind. Le gouvernement a annoncé une évaluation de la régulation de la chasse. Déclaration du Premier ministre féringien. 2 points, ouvrez les guillemets.
Bien que ces chasses soient considérées comme durables, nous allons examiner de près les chasses aux dauphins et le rôle qu'elles doivent jouer dans la société pharyngienne.
Sans, cela dit, que ça remette en cause la pratique qui qualifie, vous l'avez entendu, de durable. Pratique tout à fait légale et acceptée, je vous le disais. Le Danemark, d'ailleurs, n'a jamais signé la convention qui protège les cétacés à l'international. C'est même une stratégie politique, d'après Sea Shepherd.
Ce qui fait que le Danemark est aussi motivé et déterminé à défendre le Grindadrap, c'est purement politique. Aujourd'hui, aux îles Féroé, il y a un fort mouvement indépendantiste qui veut se séparer du Danemark. Et le Grindadrap, en fait, c'est un point de bascule qui peut faire basculer en fait le camp indépendantiste du côté de la victoire. Et donc c'est pour ça que le Danemark se mobilise pour défendre cette tradition. C'est déjà arrivé par le passé hein, qu'il y ait des soubresauts comme ça et qu'on ait des déclarations qui nous disent « bon, on va mettre des quotas ». Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de quotas, hein, c'est vraiment... Ils ont le champ libre, hein. Ils peuvent tuer autant de dauphins qu'ils le souhaitent. Et pour l'instant, on n'a jamais rien vu de concret se mettre en place.
Alors, seule solution pour l'association, mettre la pression à l'international sur les îles Féroé, en mobilisant aussi l'opinion publique avec, par exemple, des appels à boycotter le saumon exporté des Féroé qu'on trouve dans nos supermarchés. Mais pour l'instant, et certainement pour longtemps encore, les dauphins à flanc blanc et les globicéphales, protégés, je le rappelle, à l'international, ont du souci à se faire s'ils s'approchent des côtes de l'archipel.
Voilà, Camille Passot, vert, avec une tonalité rouge aujourd'hui, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Michel Lussault, Christine Chivallon, cet exemple des îles Féroé, c'est typique de l'empreinte prédatrice de l'humain sur l'animal, en l'occurrence.
Oui, c'est un exemple, hélas, très bien choisi, parce qu'on voit bien comment, dans un système qu'on pourrait appeler extractiviste, hein, toute ressource est considérée comme... exploitable, sans aucune question. Toute chose non humaine est considérée comme pouvant être une ressource exploitable à l'infini. Il n'y a pas de question à avoir. D'ailleurs, même toute l'économie politique contemporaine s'est fondée, à partir de Jean-Baptiste Say, sur l'idée que tout ce qui était de l'ordre de la ressource naturelle était d'ailleurs gratuit. Hein, il n'y a pas de prix aux dauphins. Il peut y avoir un prix pour l'exploitation, mais il n'y a pas de prix aux dauphins. C'est gratuit. Et ça pouvait être exploité à l'infini. C'est la base du capitalisme contemporain. Et depuis 1950, ça a explosé. Et ce qui est intéressant dans cette idée d'inhumanité dont on a parlé tout à l'heure, c'est que dans certaines circonstances, des êtres humains sont aussi réduits à l'état de choses, de ressources qu'on peut exploiter sans aucune vergogne. Et ça a été le principe de l'esclavagisme.
Donc, on voit bien. Qui est encore présent aujourd'hui, l'esclavagisme.
Voilà, on voit bien se constituer ce que Christine appelle des matrices ou ce qu'on pourrait appeler des schémas d'organisation sociale et d'interprétation qui sont au cœur de la réflexion sur l'anthropocène.
Sauf que, Christine Chivallon, de quel droit on va donner des leçons aux habitants des Féroé alors que chez nous, on ne tue pas forcément des dauphins, mais des cochons, des vaches, des poulets
Ils le disent d'ailleurs, les pharyngiens. C'est dans les abattoirs, finalement, c'est pareil. Hein. Il y a autant de sang par terre que dans la mer.
Oui, effectivement.
Pourquoi s'émouvoir particulièrement de ces images?
Effectivement, donc moi c'est pour ça que je parle de matrice, hein, cette matrice qui dès qu'elle s'installe, dès la découverte du Nouveau Monde, dès que s'installe l'idéologie qui est propre à la modernité occidentale, de la supériorité civilisationnelle de l'homme blanc occidental, va se diffuser l'idée que on sait faire, on sait conserver. On sait dire ce qu'il faut faire en Afrique pour les parcs nationaux. Mmh. On sait ce que l'on appelle le colonialisme vert. Il y a des expériences extrêmement troublantes, comme celle que j'ai vue dans un musée à Oxford, de St. Pete Rivers, je crois le nom, où on a... On a restauré des robes de rituels qu'on a ramenées aux tribus aux États-Unis qui étaient concernées, les Blackfoot, et on leur a fait, on leur a montré que l'on avait restauré ces robes de rituels pour leur dire à la fin, alors qu'ils étaient heureux d'avoir récupéré ces robes, qu'ils ne pouvaient pas les garder parce que seulement le musée d'Oxford avait des techniques de conservation. Mais c'est d'une violence inouïe. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas la réponse si ce n'est l'arrogance de la supériorité civilisationnelle de l'Occident. Et c'est avec ça qu'il faudrait rompre.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de la discussion sur l'Anthropocène. Certainly, c'était Big Thief à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Ça y est, c'est planté. Super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, donc là, on est suffisamment loin de la côte. C'est bien parce que on va vraiment chercher des environnements stables de dépôt des sédiments. Et c'est des zones qui sont plus appropriées à un enregistrement continu de l'Anthropocène et de l'histoire du lac. Ça y est, je le vois. Ouais, super. Regarde, on a une super interface. Ah là, c'est génial. Ah, mais regarde, là, c'est ça qui est intéressant. Hop,
on
va la mettre à bord.
On la vire à bord.
Voilà, rien, on va la mettre même ici. Ce qu'on peut remarquer, en fait, donc c'est une pile de sédiments, une pile d'âge. Et ce qu'on voit, c'est que la superficie, ici, tout est sombre, très noir. Et à un moment donné, eh bien, on voit une distinction, une limite, très visible, alors qu'on vient à peine de sortir la carotte. Et on repasse vers des sédiments plus clairs, au fond. Et bien, cette transition, cette limite, passer du clair au sombre, eh bien, c'est une des marques les plus visibles de l'Anthropocène qu'on peut voir dans ce lac.
Les sédiments deviennent plus sombres quand les apports en nutriments, comme l'azote et le phosphore, augmentent dans les eaux du lac. C'est ce qui se passe à partir des années 50, avec l'intensification de l'urbanisation et de l'agriculture.
Voilà, c'était pour vous Michel Lussault, un sujet trouvé par Valérie Ayestarail au lac d'Annecy, où on voit l'histoire de l'Anthropocène vraiment dans les sédiments, avec l'université Savoie-Mont-Blanc et la voix de Jean-Philippe Génie, qui est géologue. Camille, il y a plein de questions.
Oui, Claude et Christophe, par exemple, qui nous écrivent par mail, je les cite tous les deux parce que leurs questions se rejoignent. Claude nous écrit « Rendre l'homme responsable, c'est mettre tous les hommes à égalité dans cette responsabilité, mais qui est vraiment responsable ?» L'espèce humaine ou certains êtres humains. Un paysan d'Inde n'a peut-être pas le même impact qu'un pétrolier texan. Et Christophe ajoute, les Occidentaux ont une sacrée dette quant aux pressions exercées sur notre bonne vieille planète. Nous n'avons pas tous participé au même niveau à ce saccage. Christine Chivalon, vous êtes d'accord avec ce message?
Tout à fait, puisque c'est le plantationocène a été une notion construite pour justement dire que l'anthropocène, c'est pas l'empreinte humaine de tous les humains à égalité. On a d'autres notions anglo-saines, capitalocène, pour distinguer mettre la responsabilité sur
le capitalisme, par exemple.
Sur le capitalisme, auquel
on
bien
participe,
auquel on participe, bien évidemment.
Enfin, on participe, les Occidentaux, mais
à quel degré sommes-nous dans le rapport entre ceux qui sont des décideurs, ceux qui sont dans des dynamiques d'accumulation et ceux qui sont dans des dynamiques de faire avec. Et là, on a toutes les alternatives dont on aura peut-être l'occasion de parler.
Michel Lussault.
Alors, je suis à la fois d'accord et pas complètement d'accord. C'est-à-dire, je pense que l'Anthropocène reste intéressant parce que, bien sûr, tous les acteurs humains n'ont pas la même responsabilité. Ça, c'est absolument évident. Et il ne s'agit pas de tomber dans ce piège, de dire que le paysan indien comme le pétrolier du Texas ont la même responsabilité. Mais il me semble que ramener Anthropoi, donc les êtres humains en société, dans le jeu, c'est aussi une manière de dire qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas d'anthropisation sans impact biophysique. Pour sortir aussi d'une naïveté qui consisterait à dire on pourrait réinventer un mode de vie humain qui serait sans impact sur les systèmes biophysiques, et ensuite de dire que si nous voulons sortir de la crise de l'habitabilité que nous sommes en train de découvrir chaque jour un peu plus, et l'été qui vient de se passer particulièrement nous l'a confirmé, eh bien il faut que tous les êtres humains prennent conscience de ce qui est en train d'arriver, et peut-être prennent conscience aussi culturellement, parce que nous sommes tous en fait obligés de faire un travail à la fois culturel pour identifier les logiques qui nous ont menés à cette crise de l'habitabilité, que nous soyons en Chine, en Inde, aux États-Unis, en France. Et puis ensuite, peut-être que l'Anthropocène, puisque c'est global, ça serait aussi l'occasion de construire une politique globale à l'échelle de la planète, que moi je...
Bon courage.
Mais j'en rêve depuis très longtemps, qui était d'ailleurs la promesse de 1945, quand on a créé l'ONU. Et je trouve donc intéressant, par hypothèse aussi politique et scientifique, de garder le mot anthropocène, y compris dans ce qu'il a de gênant. C'est-à-dire de ne pas sursoir à la critique politique, en disant, il faut quand même bien prendre conscience de qui a fait quoi, mais de conserver l'idée que ce qui est en train de se passer, c'est une crise de l'habitabilité planétaire que tous les êtres humains, aujourd'hui, un jour ou l'autre, vont y être confrontés.
Et alors, comment on y répond à cette crise? Parce que tout le monde en fait le constat, Christine Chivalon, on n'en est même plus là aujourd'hui. Donc, comment on passe ce cap? Ça y est, on sait qu'on est dans une situation qui est
à peu près peu soutenable à très moyen terme. Alors, comment on y répond?
Ouais. Alors, vous voyez qu'il y a un tout petit désaccord, mais qui n'est pas énorme, hein, entre nous. Vous citez dans l'ouvrage, je dis vous, parce que c'est dans le dialogue, Jean-Baptiste Fressoz qui dit il faut une prise de conscience au niveau international des décideurs. C'est pas nous avec notre compost, notre vélo, etc. C'est pas ça. Ça suffit pas. Ça n'est pas suffisant. Et puis, faire attention à ces logiques de contre-anthropocène, moi j'appelle le contre-plantationocène, qui se sont développés très très précocement, qui sont des réponses et qui affirment une présence qui n'est pas de l'ordre de celle de « on est dans la logique extractiviste ». Et là, je veux parler, bien sûr, des...
Alors, imaginons que nous, gouvernants, les entrepreneurs, tout le monde ait pris conscience du problème. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui.
C'est quoi l'idée, en fait? Parce que vous disiez hors antenne, on ne croit pas à la transition. Donc vous croyez quoi, la radicalité?
Je pense, par exemple, qu'il n'y a pas de chantier plus urgent à l'échelle mondiale. Ouais. Hein, c'est pas un chantier seulement occidental que de redéfinir les modes de production agricole.
Donc les casser, en fait.
Complètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que l'agro-industrie est un secteur qui est complètement dans la logique de cet extractivisme dont nous parlions, et que nous ne pourrons rien faire tant que nous n'aurons pas cassé cela. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une ampleur, un travail d'une ampleur considérable, d'une ampleur sociale, économique et culturelle considérable, qui impose de redéfinir notre relation aux environnements biophysiques, aux écosystèmes, à la nature, aux animaux, aux végétaux, et aussi de redéfinir notre relation à l'alimentation. Et c'est en ce sens que la mise en tension de l'Anthropocène avec le néolithique est intéressante, puisque c'est aussi une époque où ça s'est fait. Et moi, je dis aujourd'hui, au risque de déplaire et parfois d'inquiéter ceux qui m'écoutent, en réalité, il n'y a pas de solution sur étagère. Et il n'y a pas de solution qui ne sera pas cassante.
Mais alors, vous dites, Michel Lussault,
il n'y a pas de solution qui ne sera pas difficile.
Vous dites avec Jean-Paul de Moule, je ne me reconnais pas dans l'effondrisme. Mais alors là, c'est plus qu'un effondrisme.
Non, parce que l'effondrisme, c'est ce qui nous laisserait penser qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que moi, je critique l'effondrisme pour deux raisons. Je pense d'abord que les effondrements, il y en a eu déjà beaucoup et qu'on les a complètement sous-estimés. Pour les sociétés caraïbes qui ont vu arriver les colonisateurs, il y a eu un effondrement. Mmh. Donc l'effondrement, c'est une constante historique. Et je dis que nous sommes confrontés à une crise de l'habitabilité contemporaine, mais l'être humain n'est pas menacé de disparaître dans l'immédiateté de l'histoire, pas plus que le vivant d'ailleurs. Mais nous sommes confrontés en fait à une crise des matrices, une crise des modèles d'habitation, et que l'effondrement n'est pas la réponse aux questions que nous avons à nous poser, puisque pour moi, la réponse aux questions que nous avons à nous poser est une question de construction de nouveaux modèles, de construction de nouvelles manières de faire et de construction de nouveaux arrangements politiques pour ça.
Alors Christine Chevalon, ce serait quoi votre nouveau modèle à vous alors?
Moi je pense que c'est vraiment...
Parlons concrètement, parce que c'est
concrètement,
important.
Concrètement, je pense que ça passe par une véritable prise de conscience au niveau décisionnel, au niveau de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir de décider des marchés, des politiques,
mais ils n'arrêtent pas
etc.
de dire qu'ils sont conscients. Encore hier, Emmanuel Macron était sur les plus de 2,7
Je pense qu'il y a un gros travail, un de mes collègues parle de psycho-histoire quand il parle de ce qu'il fait quand on travaille sur les sociétés à fondement esclavagiste, qui ne sont pas que la Caraïbe. Ne pas oublier surtout les États-Unis. États-Unis dont Piketty a publié un article là, récemment dans Le Monde qui dit extrêmement bien le lien entre la prise du Capitole en janvier et l'esclavage. Il y a quelque chose de l'ordre d'un soubassement, l'effondrement et le soubassement, la fracture et le soubassement de l'Occident et des États-Unis. Alors prise de conscience, oui, il y a un travail de presque psychologique à faire.
Mais Joe
Biden
le dit
aussi. Il y a quelque chose dans l'humain aujourd'hui qui relève de l'addiction, mais une véritable addiction maladive à l'accumulation des richesses. C'est l'économie du luxe, etc. Mais il faudrait que ce processus-là, déjà, on s'y attaque. Ça commence par là, par cette véritable recherche, mais qui est inassouvie de profit.
Pas seulement de profit, je suis d'accord avec toi, Christine, pardon, mais je pense que c'est là où je crois qu'on voit aussi peut-être la limite, là c'est la discussion scientifique qui continue, la limite de l'idée qu'il faut simplement que les décideurs soient convaincus. C'est là où je pense que l'anthropocène redevient intéressant parce que, par exemple, l'agriculture, dont je parle pour moi, l'agriculture c'est matriciel. Je suis spécialiste de la question urbaine, mais je pense que la problématique agricole aujourd'hui est fondamentale. Autant que la problématique de la mobilité. C'est les deux problématiques sur lesquelles il me semble qu'on devrait agir en urgence.
De toute façon, sont les deux principaux émetteurs.
La logistique et la mobilité d'un côté, et le système agro-industriel de l'autre, et puis ensuite le système minier et extractiviste, parce qu'on a besoin de plus en plus de ressources minières pour faire fonctionner la 5G, les satellites d'Elon Musk, et pour envoyer 4 super riches dans l'atmosphère pour jouir du tourisme de l'espace, qui est un vrai scandale anthropocène, soit dit en passant, même si on peut s'enthousiasmer de la prouesse technique. Il faut que nous, en tant qu'individus, habitants du monde, nous avons des pouvoirs de citoyenneté, mais nous avons aussi des pouvoirs induits par notre capacité d'être des acteurs du marché et d'être des acteurs d'une société politique. C'est-à-dire, c'est là aussi où, par rapport à ce que tu parlais en termes d'addiction à la richesse, à la consommation, par exemple, redéfinir les régimes alimentaires, aujourd'hui de chacun, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de profondément porteur de renouveau. Après tout, les gens qui font le choix de ne plus manger de viande rouge, ne serait-ce que ça, ils ont un potentiel d'action sur l'ensemble du système qui est loin d'être marginal. Donc, comme je suis un vieil optimiste, c'est ma génération qui veut ça, j'ai l'impression que de temps à autre, je suis amené à dire, mais finalement, nous avons, nous, la possibilité, habitants de cette terre confrontée à la crise anthropocène, de nous ressaisir de nos capacités d'agir.
Mais vous qui êtes spécialiste de l'urbanisme, par exemple, est-ce qu'il faut arrêter de construire, tout simplement, ces mégalopoles qui fleurissent absolument partout? Est-ce qu'il faut mettre un point d'arrêt à toute initiative urbanistique?
Je pense en tout cas que la désurbanisation n'est pas pour demain, mais que nous ne pouvons plus soutenir le modèle d'urbanisation qui a été celui des 35 dernières années, qui est un modèle qui est fondé sur la spéculation, sur une économie de casino, sur une surexploitation des ressources, sur une ségrégation sociale absolument insensée, sur une accentuation des inégalités sociales qui devient insoutenable, sur la marginalisation des plus pauvres. On l'a vu pendant la pandémie, qui a été le plus exposé à la pandémie? Ben finalement, les plus pauvres, c'est-à-dire les personnes racisées, les femmes, les personnes exclues du marché de l'emploi. Je pense que l'urbanisation est un potentiel, mais pas comme elle vient d'être faite depuis 35 ans.
En tout cas, merci à tous les deux. On va donc renvoyer sur le nouveau numéro de votre série sur l'Anthropocène, Néolithique Anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années. C'est aux éditions 205 et puis l'exposition au Musée des Confluences.
Jusqu'à la fin janvier 2022.
Voilà, merci infiniment à tous les deux. Et c'est à Lyon. Et bon retour là-bas, justement.
Pur, que dit la nature?
Allez, avant de se quitter, on va vous offrir, comme chaque mercredi, 2 minutes 30 de nature pure, grâce au podcast et vodcast de France Télévisions. C'est l'épisode 29. Et pour vivre cette expérience, eh bien, ouvrez grand vos oreilles. On part dans un milieu naturel de la planète et imaginez tout simplement la scène qui est en train de se dérouler et qui a été enregistrée par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. Voilà, j'espère que cette petite immersion sonore vous a fait plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus et deviner exactement de quoi il s'agit, bien vous aurez la réponse en allant sur le podcast de France Télévisions. C'est en partenariat avec la Terre au Carré, France.tv, et vous allez sur l'onglet « Pur, que dit la nature ?».